Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 24 octobre 2022. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'armée de terre iranienne mesure sa capacité à écarter toute nouvelle menace de l'ennemi. Des combattants de la résistance palestinienne ouvrent le feu sur les forces israéliennes à Naplouse. Et en Somalie, une attaque de Shebab cible un hôtel dans le sud du pays. C'était les principaux titres. En voici le journal. Les forces terrestres de l'armée iranienne ont lancé un grand exercice militaire de 3 jours avec la participation des forces de combat dans une zone frontalière de la province de l'Azerbaïdjan occidental. Le commandant de la 164e brigade d'assaut mobile des forces terrestres de l'armée, le colonel Hamid Firouz Jaï, a déclaré que l'exercice de 3 jours a débuté le samedi 22 octobre dans le district de Pasveh, Piranshahr, afin d'évaluer la puissance de combat des forces et de montrer leur capacité militaire. Les forces participant à l'exercice utilisent des armes légères, semi-lourdes et lourdes, conformément aux objectifs de l'exercice, et démontrent leur capacité de combat et de défense, a déclaré le commandant. Le commandant de la 164e brigade mobile d'assaut a souligné que les forces menaient des opérations de parachute héliportée, des raids nocturnes, des combats en hélicoptère, le contrôle des routes de communication, la capture des hauteurs et la destruction offensive et la guerre urbaine lors de l'exercice à Piranshahr. Le mois dernier, les forces terrestres de l'armée iranienne ont organisé une série d'exercices militaires de 2 jours dans la ville de Nasr Abad, dans le centre de l'Iran, qui visaient à mesurer leur capacité à écarter de nouvelles menaces. Les exercices ont réuni diverses unités issues des unités blindées, d'infanterie, d'artillerie, d'aviation de l'armée, de drones, d'ingénierie et de guerre électronique de l'armée de la République islamique d'Iran. L'exercice à grande échelle a eu lieu après que le ministère iranien de la Défense eut annoncé avoir équipé 51 villes du pays de systèmes de défense civile pour surveiller et contrecarrer toute menace de motifs biologiques, radiologiques et chimiques dans les plus brefs délais. S'appuyant sur sa doctrine militaire, la République islamique d'Iran affirme qu'elle ne serait jamais partie à l'initiation d'un conflit. L'armée, cependant, a déclaré à de nombreuses reprises qu'elle porterait à tout agresseur potentiel un coup bien plus grand que ce que ce dernier pourrait infliger au pays. A noter que les responsables des forces armées de la République islamique d'Iran ont annoncé à plusieurs reprises que les forces armées iraniennes ne laisseraient même pas l'ennemi penser à la moindre violation des frontières du pays. Des combattants de la résistance palestinienne ont ouvert le feu sur les forces israéliennes dans la ville cisjordanienne de Naplouse, dans un contexte de tensions accrues dans les territoires occupés. Des sources palestiniennes ont déclaré que des combattants de la résistance ont ouvert le feu de manière intensive sur une position militaire israélienne sur la montagne Gerizim, Annapolis, dimanche soir, 23 octobre. L'armée israélienne a imposé un siège strict à Annapolis depuis le 11 octobre, bloquant les entrées de la ville, tandis que des drones israéliens survolent constamment la ville du nord de la Cisjordanie. Le siège est intervenu à la suite d'une fusillade menée par le groupe Fosse au Lion près de Annapolis qui a tué un soldat israélien. Le siège, qui selon les responsables israéliens se poursuivra jusqu'à nouvel ordre, a eu des répercussions économiques sur une ville qui a une importance industrielle et commerciale particulière pour la Cisjordanie. La fusillade a eu lieu alors que le groupe Fosse au Lion a juré dimanche une réponse ferme à l'assassinat de l'un de ses membres plus tôt dans la journée. Les forces israéliennes ont récemment mené des raids nocturnes et des tueries dans le nord de la Cisjordanie occupée, principalement dans les villes de Jenin et de Nablus, où de nouveaux groupes de combattants de la résistance palestinienne ont été formés. Au moins 175 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée, ainsi que dans la bande de Gaza, depuis le début de l'année, dont 51 Palestiniens lors de l'assaut de 3 jours d'Israël sur Gaza en août, selon le ministère palestinien de la Santé. Des groupes de défense des droits locaux et internationaux ont condamné l'usage excessif de la force par Israël et sa politique de tirer pour tuer contre les Palestiniens. De plus, des rapports indiquent que les actes de résistance palestiniens se sont intensifiés au cours des dernières 24 heures au milieu d'attaques accrues par des colons et des militaires israéliens. Le Centre d'information palestinien a déclaré que les combattants palestiniens avaient mené 23 opérations dimanche 23 octobre, faisant 3 blessés parmi les soldats et les colons israéliens. Une explosion s'est produite 23 octobre dans la province Adramout, située à l'est du Yémen. Les habitants de la ville d'Al-Wadi, dans l'Adramout, ont annoncé qu'ils ont entendu le bruit d'une explosion qui s'est produite près de la compagnie pétrolière canadienne Calvary. Les habitants de la ville ont témoigné qu'au moins 4 militaires ont été tués et plusieurs autres ont été blessés au cours de cet incident dans lequel un colis piégé a explosé à proximité de la compagnie canadienne. Il n'est pas encore clair si l'explosion a été réalisée par les forces yéménites ou a été causée en raison d'un différend entre mercenaires saoudiens et émiratis. L'unité d'artillerie saoudienne a pilonné samedi 22 octobre différentes zones dans le district frontalier de Shada, situé dans la province de Saada, nord-ouest du Yémen. Dans ses prévisions régionales, le Fonds monétaire international, FMI, pointe du doigt une croissance en berne et une inflation toujours très forte, alors que le risque de pénurie d'énergie pourrait aggraver la situation. La croissance sur le continent européen est désormais attendue à 3,2% en 2022 et 0,6% en 2023. L'Europe était sur le point de sortir de la pandémie fin 2021 avec une combinaison de politiques globalement appropriées, tandis que la hausse de l'inflation était en passe de s'atténuer. Mais la guerre de la Russie en Ukraine et ses retombées ont complètement changé les perspectives, a détaillé le FMI. Les tensions sociales pourraient s'intensifier en réponse à la crise du coût de la vie, poussant les gouvernements à avoir une politique budgétaire plus expansionniste qui pourrait contraindre les banques centrales à resserrer davantage leur politique monétaire. Devant faire face à une combinaison de croissance faible et d'inflation élevée qui pourrait s'aggraver, les décideurs européens sont confrontés à des arbitrages sévères, à des choix politiques difficiles, a encore relevé le FMI. Une attaque à la voiture piégée a ciblé ce dimanche 23 octobre un hôtel réputé de la ville somalienne de Kismayo, dans le sud du pays, selon la police somalienne. Le chef adjoint de la police de la région du Jubaland, Mohamed Nassi Goulad, a expliqué que les kamikazes étaient rentrés dans l'hôtel Tawakkal avec un véhicule chargé d'explosifs en entraînant un échange de tirs entre les assaillants et les forces de sécurité. M. Goulad, qui n'a pas confirmé le nombre de victimes, a appelé au calme, affirmant que les forces de sécurité rétabliraient bientôt l'ordre dans l'hôtel fréquenté par des membres du gouvernement et des hommes politiques. Le groupe terroriste Al-Shabaab, qui combat pour renverser le gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale, a revendiqué l'attentat contre cet hôtel sous haute protection. Les forces armées de la RDC, FARDC, alerte dans un communiqué publié dimanche 23 octobre la communauté nationale et internationale sur la relance des hostilités par les rebelles du M23. Depuis jeudi 20 octobre, leur position sur l'axe Rangira-Rwanguba-Tchengrero dans le territoire de Rutshuru, Nord Kivu, ont été la cible des rebelles du M23 et leurs alliés, les forces de défense du Rwanda, RDF, affirment les FARDC dans ce communiqué. Après avoir essuyé des revers sur cet axe, une autre offensive des rebelles a été lancée sur l'axe Intamugenga, où des combats se sont poursuivis le dimanche, poursuit le communiqué de l'armée. Plusieurs populations ont fui la région pour se mettre à l'abri. Les forces armées de la RDC rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques, défendre l'intégrité du territoire national et protéger la population jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Pacifique, les États-Unis dans la zone de danger. La Chine et les États-Unis sont entrés dans la zone de danger, estime le spécialiste de la défense américain James Holmes. Le professeur et l'analyste militaire James Holmes est revenu dans une note récente sur les propos de Mike Gallagher, membre du Congrès de Wisconsin, formulés peu après la publication de l'indice annuel de la Heritage Foundation, qu'a jugé récemment les forces armées américaines faibles par rapport aux engagements qui leur étaient confiés dans des missions, entre autres, au Pacifique occidental. Bien que Mike Gallagher n'ait pas utilisé le terme, remarque James Holmes, il pense toutefois que les États-Unis sont entrés dans une zone dangereuse de leur compétition stratégique contre la Chine. Une zone de danger est à un intervalle où un concurrent voit une opportunité de résoudre un dilemme stratégique en sa faveur, généralement par la force des armes. Et c'est un intervalle fini. Un tel concurrent estime que les tendances en matière de puissance militaire, de croissance économique, de démographie, etc., se retourneront bientôt contre lui. En d'autres termes, un concurrent envisageant une zone de danger pense qu'il est dans une échéance. Il doit agir maintenant ou jamais. L'analyste fait ensuite un parallèle entre la situation actuelle dans le Pacifique occidental à celle en Allemagne impériale il y a plus d'un siècle, où la Grande-Bretagne a été tentée d'utiliser la force maritime pour contrecarrer un rival naissant, l'Allemagne. Aujourd'hui, une puissance maritime émergente, la Chine, est tentée de recourir à la force avant que l'Amérique, puissance maritime historiquement en déclin, ne retrouve son statut d'hégémonie océanique. Les États-Unis ont renoncé à leur avantage en mer. Il faut du temps ainsi que de la volonté politique pour organiser une campagne de retour en arrière pour reprendre leur supériorité habituelle sur l'armée populaire de libération de Chine. Mike Gallagher observe que la marine américaine, loin de grossir en nombre et en puissance de feu pour relever le défi de la Chine, devrait diminuer en nombre, passant des 292 navires des forces de combat d'aujourd'hui à 280 dans les années à venir. Il est vrai que la Chine est restée le défi de sécurité le plus complet pour les forces américaines dans tous les domaines, comme l'a indiqué le rapport annuel de la Heritage Foundation citant les avancées technologiques de l'armée chinoise. Les Chinois ont lancé leur premier porte-avions local au cours de l'année écoulée et déploient un grand nombre de nouvelles plateformes pour leurs forces terrestres, maritimes, aériennes et spatiales, ainsi que dans le domaine électromagnétique. L'armée de l'air a été classée très faible et la marine faible. L'incapacité persistante de la marine à arrêter et à inverser la diminution continue de sa flotte, tandis que les forces adverses augmentent en nombre et en capacité, contribue à une évaluation plus faible. Les principaux problèmes de l'armée de l'air sont liés à la formation et à la rétention des pilotes ainsi qu'au vieillissement de sa flotte d'avions. le service le plus récent, la force spatiale a également été qualifiée de faible, le rapport citant des efforts lents et progressifs pour moderniser les plateformes vieillissantes.
Bonjour à tous, bienvenue sur nos plateaux de télévision, de Presse TV, ici à partir de Téhéran. Aujourd'hui, un sujet, le sujet de la résistance au Moyen-Orient et notamment l'arrivée du Hamas en Syrie. Étant venu voir M. Bachar al-Assad, le président syrien, comme d'habitude concernant nos débats, nous avons d'abord un petit reportage à vous proposer. Et par la suite, nous ferons venir nos invités, notamment des invités en système vidéo. Ce que je vous propose à l'heure actuelle, c'est donc de mettre en place le reportage.
Le président syrien Bachar al-Assad a reçu le 19 octobre une délégation de représentants de factions de la résistance palestinienne, dont un responsable du mouvement Hamas, à Damas. Khalil al-Haya, le chef adjoint du mouvement Hamas à Gaza, a déclaré que la rencontre avec le président syrien Bachar al-Assad a été chaleureuse. Il a exprimé sa détermination à apporter tout le soutien de la Syrie au peuple palestinien et à sa résistance. Un jour auparavant, le Hamas avait confirmé qu'une délégation de la direction du mouvement arriverait à Damas le 18 octobre pour une visite officielle pour la première fois en 10 ans. Cette visite intervient après la tenue de négociations privées entre le Hamas et les dirigeants syriens, sous la médiation du Hezbollah, au cours desquelles ont été évoquées les raisons pour lesquelles le mouvement a quitté Damas en 2012. Lors de sa rencontre avec le président Assad, le responsable palestinien a déclaré que cette visite est une preuve éclatante que l'esprit de la résistance est renouvelé, adressant une lettre de défi à l'occupation israélienne selon laquelle le rassemblement est une réponse à ses projets. La rencontre avec Assad est un jour glorieux et à partir de maintenant, nous allons reprendre notre présence à Damas pour travailler aux côtés du peuple syrien pour retrouver la stabilité du pays, a ajouté Haya. Selon Haya, les représentants des factions palestiniennes ont assuré à Assad qu'il se tenait aux côtés de la Syrie et de son intégrité territoriale contre toute agression qui la vise. « Nous supprimons toute action individuelle qui n'a pas été approuvée par la direction du Hamas et nous avons convenu avec le président Assad de tourner la page sur le passé », a déclaré le chef adjoint du mouvement Hamas. Par ailleurs, le responsable palestinien a précisé que le Hamas a informé les pays avec lesquels il entretient des relations de sa décision de rétablir les liens avec la Syrie, expliquant que cette décision a été prise par le Hamas seul. Il a également salué le rôle de la Syrie dans la région, soulignant que la relation avec Damas donne de la force à l'axe de la résistance et à tous ceux qui y croient. Le Hamas a également publié une déclaration exprimant son appréciation du leadership de la Syrie et de sa position de soutien au peuple palestinien dans sa lutte contre Israël. En 2008, la Syrie a accueilli plusieurs commandants militaires du Hamas pour des recherches sur les drones et les missiles et les a aidés à améliorer leurs drones de surveillance et de combat.
Alors, chose qu'on oublie très souvent en parlant du Moyen-Orient et de la Palestine, c'est que la Palestine n'est pas le seul à devoir supporter la colonisation israélienne, puisque la Syrie est également victime de ce genre de colonisation illégale. Maintenant, nous allons accueillir donc nos deux invités. Notre première invitée étant Madame Aïssar Midani, notre experte politique, directement basée à Damas. Bonjour, Madame Aïssar Midani.
Bonjour à vous, à votre équipe, et merci de votre invitation et à tous les auditeurs.
Deuxième invité étant notre expert également en questions politiques, M. Amrouni. Bonjour, M. Amrouni.
Bonjour à vous et bonjour à votre invité, et bon vendredi à tout le monde.
Merci à vous. Alors la question d'aujourd'hui est forcément la rencontre de cette semaine entre le Hamas et Bachar al-Assad, président syrien. Je viens d'indiquer qu'il n'y a pas que la Palestine donc, qui est victime de la colonisation illégale de l'entité sioniste, puisque la Syrie dans le Golan est également victime de ce genre de colonisation illégale. Madame Aïssa Rahmidani, pouvez-vous faire le point sur l'importance de cette rencontre qui a eu lieu cette semaine ?
C'est un retour du Hamas. Effectivement, c'est quelque chose d'assez historique, je peux dire. C'est une journée historique dans la mesure où c'est le retour du Hamas vers la Syrie. La Syrie n'a jamais changé de position vis-à-vis de la résistance palestinienne. Elle a toujours soutenu la résistance palestinienne depuis toujours. Depuis ses premières formations, je dirais, dans les années 60, 68, 70. Hein. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de la stratégie et dans la politique syrienne. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le début du printemps arabe, tout ce qui est tristement appelé printemps arabe et qui s'est avéré une véritable catastrophe pour les pays arabes, le début en 2011-2012, on a vu certains dirigeants du Hamas aller dans le sens effectivement de l'agression même de la Syrie. Ils étaient inféodés un peu à la Turquie, un peu à Qatar, et ils ont effectivement commis de grosses erreurs, y compris contre le peuple palestinien, contre le peuple syrien. Le camp à Yarmouk a été ouvert à Daesh, parce que en fait à l'époque ils pensaient peut-être que c'était effectivement un mouvement pour la démocratie et pour la liberté, et au fur et à mesure que le temps est passé, ils découvrent leurs erreurs, et en fait depuis quelques mois ceci dit, Israël, pendant toute cette période, n'a pas arrêté d'agresser aussi bien la Syrie que la Palestine, et en particulier Gaza, Al-Quds, Jérusalem, le peuple palestinien. Pendant toute cette période, la Syrie n'a jamais changé de position. Elle a soutenu la position de lutte du peuple palestinien contre l'agresseur israélien. Et c'est ce que la Syrie affirme toujours, que de toute façon affirme toujours son soutien malgré cette guerre ignoble dont elle a fait l'objet venant de tout un tas de pays, 101 pays dans le monde qui ont dépêché des terroristes qui sont venus agresser la Syrie, y compris des pays voisins, donc en partie donc la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, une partie des forces politiques libanaises aussi ont rejoint toutes ces hordes, je dirais, qui visaient à détruire la Syrie.
Or, merci,
la Syrie a tenu bon et a été victorieuse, et aujourd'hui, les uns et les autres refont leurs calculs.
Merci Madame Aïssa Rahmidani. Monsieur Amrouni, vous qui êtes basé sur Paris, on voit cette dernière année en particulier une unification finalement des fronts, que ce soit de l'Afrique du Nord jusqu'au Moyen-Orient, jusque même vers l'Asie. On voit donc que malgré les guerres politiques, les guerres militaires et les guerres psychologiques dont ont dû faire face ces différents peuples, eh bien cette unification a été possible ou est en train d'être possible.
Bien sûr, je reviens sur la question palestinienne et la Syrie. Il faut savoir que la question palestinienne est au centre de la politique syrienne, que ce soit la politique intérieure ou même extérieure. Donc le retour de Hamas vers la Syrie, c'est un grand événement. Ça montre très bien le réalisme de la politique syrienne et la vision stratégique du président Assad. Il faut bien comprendre cette vision du front de la résistance en tant que groupe, en tant qu'individu, en tant qu'État. Et ce front, il résiste face à la guerre psychologique, face à la guerre politique, face à la guerre économique et face à la guerre militaire tout court. Donc on est vraiment dans la guerre globale. Et cette visite va remettre en place, si vous voulez, le centre des forces de la résistance. Parce que le centre des forces de la résistance, c'est la Syrie. C'est pour ça que la Syrie, elle était attaquée, comme votre invité l'a bien précisé, par une centaine de pays. Et en plus, c'est les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, tout l'Occident presque, qui a voulu détruire la Syrie pour remettre en place, si vous voulez, un régime qui sert donc la politique israélienne et même mettre un autre État comme Israël, que ce soit un État kurde ou un État islamo-sunnite, entre parenthèses. Donc, le front de la résistance a bien répondu, a bien résisté. Donc, c'est une victoire lorsqu'on envoie Hamas à la rencontre du président Bachar el-Assad. C'est une reconnaissance de la victoire de la Syrie. C'est une reconnaissance de la victoire du front de la résistance. Par contre, à l'intérieur même de la Palestine, on voit bien le changement du caractère de la résistance. Aujourd'hui, on a des jeunes Palestiniens comme le grand martyr Adai, qui nous a montré à tous et surtout à la jeunesse palestinienne qu'il y a aujourd'hui une autre forme de résistance, il y a aujourd'hui une façon de résister de la jeunesse palestinienne qui déborde des organisations comme Hamas, comme le Jihad, comme le Fatah et comme le Front démocratique. Donc on a une nouvelle génération qui demande de nous de venir en aide et donc d'être en front uni. Est-ce que le président syrien a compris ce que le président Al-Assad, il reprend, si vous voulez, la maîtrise de la résistance arabe, que ce soit en Palestine, que ce soit en Syrie, au Yémen, ou même en Irak, et même au Liban. Donc on a une reconcentration, si vous voulez, un retour vers les sources, dans la Syrie, à Damas, qui devient la capitale de la résistance dans la région.
Merci, monsieur Amrouni. Alors, madame Aïssa Miladi, étant donné que vous êtes vous-même à Damas, donc sur le territoire direct de la Syrie, il ne faut pas oublier que la Syrie sort quand même de 10 ans de guerre. On ne parle pas seulement donc d'une guerre militaire, mais également de sanctions, d'embargo. Il faut dire qu'entre la Syrie et l'Iran, il y a quand même une grande différence parce que l'Iran est industrialisé, ce qui n'est pas forcément complètement le cas pour la Syrie. Donc, ce genre d'embargo et ce genre de sanctions ont été beaucoup plus durs à supporter pour les Syriens. Est-ce que vous. Qu'est-ce que se passe dans l'esprit des Syriens à l'heure actuelle en voyant toutes ces résistances finalement s'unifier? Ils sont plus seuls face au combat, face aux choses et aux pressions qu'ils ont subies. Qu'est-ce que disent les Syriens à l'heure actuelle?
Alors, je voudrais préciser d'abord, la Syrie n'est pas seulement sous embargo. Elle sort de 10 années de guerre destructrice. Au plus fort, en fait, qui a détruit toute la structure, l'infrastructure, qui a détruit énormément de choses, qui continue à avoir ses ressources pillées, puisqu'il y a une occupation américaine autour des puits de pétrole et de gaz dans le nord-est de la Syrie, et que ces Américains s'appuient sur des bandes de mercenaires qui se font appeler FDS et qui se font taxer de Kurdes, alors que ce ne sont ni des nationales, ni des Syriens, ni des démocrates, mais ce sont purement et simplement des mercenaires, que la Turquie occupe aussi une partie dans le nord de la Syrie, et avec Idlib, qui sont vraiment les greniers de la Syrie, qui ont procédé à des destructions, au-delà des destructions des cultures, mais aussi à polluer les eaux, polluer les terres et à faire vraiment des processus, je dirais, pratiquement d'extermination. Ils arrêtent l'eau, ils pillent l'eau du pays par le biais de l'Euphrate, ils arrêtent les eaux de l'Euphrate, ils arrêtent les circuits de distribution d'eau. Je rappelle quand même que la ville de Hasakeh, avec sa campagne, sont privés d'eau aujourd'hui pour le 80e jour. Donc, sans que personne ne réagisse, ils n'ont pas d'eau potable et l'État syrien essaye de parer à tout ça par tous les moyens. Donc, il y a une guerre vraiment qui est énorme. Ajoutez à ceci, donc, un blocus important sur toutes les actions que peut mener la Syrie avec les autres pays et les relations avec les autres pays. Mais heureusement que donc la Syrie continue à résister. La Syrie est aussi un peu, elle est au centre de l'axe de la résistance de l'ensemble de la région. Grâce à nos amis l'Iran et la Russie, nous arrivons à avoir aussi des aides qui permettent aussi à la Syrie de vivre et au peuple syrien de vivre et de reconstruire à l'ombre de cet embargo horrible et criminel qui empêche tout, toute vie et qui empêche toute transaction avec, avec les autres pays. On ne peut pas exporter, on ne peut pas importer, etc. Le peuple syrien résiste aussi en construisant et aussi en améliorant ses agricultures de manière à ce qu'on redevienne un pays autosuffisant comme on l'a été en 2010 avant que ces agressions et cette guerre horrible ne commencent. Nous étions autosuffisants et nous n'avions pas un centime de dette. C'est ce qui déplaît énormément aux forces hégémonistes.
Il ne faut pas oublier que c'était un pays touristique aussi. Beaucoup de tourisme venait en Syrie. Il y avait exactement énormément de lieux historiques. Alors, la mentalité des Syriens à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a de l'espoir, outre le fait qu'ils ont résisté pendant 10 ans, outre le fait que Assad est revenu aux dernières élections présidentielles extrêmement fort, avec une unité bien forte au sein du peuple syrien, avec ces dernières nouvelles de comportement de la résistance qui veut plus se lier avec les autres pays, les autres groupes de résistance, quelle est cette mentalité à l'heure actuelle en Syrie?
Alors, je voudrais vous dire quand même, le peuple syrien n'a jamais perdu vraiment confiance. On a toujours eu confiance dans les directives et dans l'orientation du président Assad, qui, lui, a une vision stratégique qui est extrêmement importante et extrêmement claire, hein, basée autour de la résistance et de la libération de l'ensemble du pays et de l'ensemble des pays arabes. Parce que la libération du Golan, la libération aussi de toute parcelle de la terre syrienne, aujourd'hui de l'occupant turc et de l'occupant américain. Donc, le peuple syrien continue à résister. Et il résiste dans l'espoir, je dirais, et dans la positivité. Ce retour à l'unité, si on peut dire, ce retour des Palestiniens vers la Syrie, qui aussi, en même temps, va dans le même sens qu'un retour même aussi des peuples arabes, etc. Je voudrais dire que la Syrie a donné espoir aux Palestiniens. Ce n'est pas un hasard aussi que les luttes des peuples palestiniens soient démultipliées depuis que la Syrie a commencé à enregistrer victoire sur victoire, ça d'une part, et d'autre part, je crois que l'Algérie aussi, le soutien de l'Algérie au peuple palestinien, au peuple syrien, et le soutien de nos amis de Hezbollah, qui est infaillible aussi à la Syrie, le soutien de nos amis iraniens, aussi permet de remporter ces victoires et a permis d'ailleurs, il faut le dire, de transformer le monde, hein, puisque ce monde qui était monopolaire et assujetti au diktat américain et à l'hégémonisme américain et des pays de l'OTAN, des pays occidentaux, a été cassé par cette résistance de la Syrie, par le fait que le plan du nouveau Moyen-Orient n'a pas pu être exécuté. Le plan américain Nouveau Moyen-Orient n'a pas pu être exécuté comme il le voulait. Au contraire, il a échoué par cette victoire de la Syrie. Et donc, la Russie, ayant intervenu à la demande de la Syrie en Syrie dès 2015, a pu aussi être partie prenante de l'échiquier international des décideurs, je peux dire. Et donc, maintenant, on voit que la Russie, dans cette lutte qu'elle mène contre les agressions de tous les pays de l'OTAN, elle a changé le monde. Le monde s'est transformé. On est en phase de naissance du monde multipolaire, ce qui va donner beaucoup plus, peut-être, de justice et de liberté à tous les pays qui aspirent à cela.
Merci,
et
Madame
Midani. Pays qui aspirent à être autonomes, souverains et forts.
Merci, Madame Midani. Alors, Monsieur Amrouni, vous êtes à Paris. Il est vrai qu'on oublie que dans quelques semaines va avoir lieu le sommet de la Ligue arabe. Donc, est-il possible que la venue du Hamas en Syrie soit en lien avec ce fameux sommet qui va avoir lieu à Alger ?
C'est un sommet très intéressant, très important, mais il n'y a pas de lien entre la venue des Palestiniens, l'effort algérien, le retour de l'Algérie sur la scène internationale, sur la politique étrangère arabe. L'Algérie, elle a toujours soutenu la résistance palestinienne depuis son indépendance et même avant. Et aussi, elle a soutenu la Syrie. Et donc, le sommet arabe, la Ligue arabe qui va se tenir à Alger, je pense, bon, on n'attend pas trop de choses de ces pays arabes, parce que malheureusement, la résistance des pays qui résistent ne sont pas représentés dans cette Ligue arabe. Et cette Ligue arabe, malheureusement, elle était complice, si vous voulez, de l'effort de l'OTAN à détruire la Syrie, à détruire la Libye, à détruire l'Irak, à coloniser le Yémen. Donc, en fait, il n'y a pas de lien entre ce qui se passe dans les sommets de la Ligue arabe, qu'elle est morte depuis longtemps, en fait. Et c'est pour cette raison qu'on voit la stratégie du président Al-Assad. Même l'effort des Algériens, ils ont voulu que la Syrie soit présente, ce qui a causé quelques effrayements par rapport à certains pays arabes, comme l'Arabie saoudite ou même l'Égypte, qui ne voulait pas la présence de la Syrie, mais le président syrien, il voit très très bien que cette ligue, elle est morte, parce qu'elle ne se sert à rien. À quoi elle a servi pendant 12 ans, cette ligue? Je me demande à quoi elle a servi. Elle a servi absolument à rien. Donc,
oui, mais avant excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Amrouni, mais si vous regardez les faits ces dernières semaines, Madame Midani peut-être pourrait confirmer, mais nous avons vu donc l'Arabie Saoudite faire un pas en arrière avec l'OPEP+, faire un pas en arrière vis-à-vis des États-Unis, mais cette fois bien clair, hein, non pas flouté. Nous avons vu également d'autres réactions de la part de certains pays arabes. Tout le monde pensait que certains pays arabes ou maghrébins ne viendraient pas à ce sommet. Finalement, je crois qu'il n'y a aucune annulation. Tout le monde va venir, alors que si on écoutait l'actualité internationale, l'Algérie ne faisait pas l'unanimité lors du sommet. L'Algérie s'attendait à avoir énormément d'invités à ne pas venir. Et finalement, on en est à 2 semaines avant le sommet, aux alentours de 2 semaines. Et presque tout le monde va venir, en fait.
Malgré, il y a eu combien de sommets depuis 30 ans ou 40 ans de cette Ligue arabe? Et depuis à peu près 40 ans, on est agressé par l'OTAN, on est agressé par les États-Unis, nos terres sont colonisées. 75 ans, ça fait 75 ans que la Palestine est colonisée, le Golan syrien, la guerre au Liban. Donc, en réalité, cette Ligue arabe, elle ne sert absolument à rien. Et le repositionnement de l'Arabie saoudite, aujourd'hui, l'Arabie saoudite, elle veut entrer dans le BRICS, par exemple, et même à Shanghai, et même à d'autres organisations qui sont créées par les Russes et par les Chinois. Donc la Ligue arabe créée par les Britanniques, elle se sert absolument à rien.
Merci, M. Amrouni. On manque de temps. Madame Midani, une conclusion peut-être par rapport à ce que M. Amrouni vient de dire?
Oui, moi je pense qu'effectivement les efforts de l'Algérie dans l'organisation de cette réunion de la Ligue arabe a été un effort important et qu'il faut saluer, qui était un effort sous le titre et dans l'axe de la réunion, de réunir toutes les forces, tous les pays arabes sur une même position qui est la position de soutien à la Palestine. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a eu aussi de grands efforts pour unifier les positions des factions palestiniennes elles-mêmes. Donc, un effort qui a été déployé, qui est démesuré aussi, et qui a fini par la signature d'un accord entre les différentes factions
palestiniennes. Merci, Mme Midani.
Et c'est tout à fait louable. On peut dire qu'on avance, en fait, dans ce panorama de construction multipolaire, on avance vers une autonomisation de plus en plus importante, même des alliés.
C'est ce qu'on espère tous. Malheureusement, le débat s'arrête ici. Je suis désolée de vous interrompre. Beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle au Moyen-Orient. Malheureusement, notre débat s'arrête ici. À voir dans les semaines futures si vraiment une union réelle peut se faire parmi les pays arabes. C'est à vous de voir, c'est à nous de vous en parler. À très bientôt pour un prochain débat sur Presse TV.
L'Iran et son 7e art. La dernière fois, nous avons donné un aperçu sur la sociologie du cinéma iranien qui remonte à plus d'un siècle. Et nous avons étudié l'influence des événements politiques et sociaux sur les productions cinématographiques iraniennes. Voici maintenant la suite de cette étude. Du début des années 60 jusqu'à la fin des années 70, la modernité et l'urbanisme s'implantent progressivement dans la société iranienne. Durant cette période, le mode de vie d'une certaine élite de la population s'occidentalise. À partir des années 60, le roi Pahlavi met en place une série de réformes destinées à l'industrialisation du pays et au développement de l'urbanisme. Il s'agit surtout de réformes agraires, culturelles et sociales qui contribuent à creuser d'importants écarts entre les différentes classes sociales. À la fin des années 70, le Bureau international du travail considérait que les revenus en Iran étaient parmi les plus inégalitaires du monde. Le roi prend également des mesures selon lesquelles les hommes et femmes iraniens doivent accepter le mode de vie occidental. Du fait de ces mesures autoritaires, des tensions et révoltes se font jour dans beaucoup de villes et villages. Dans ce contexte de contradictions sociales et de contestation qui débuta dans les années 60 et se développa dans les années 70, le cinéma prend de plus en plus ses distances avec la réalité sociale de son époque. On voit à l'époque l'apparition d'un bon nombre de films médiocres et populaires attirant un peuple souffrant de l'oppression et cherchant peut-être une certaine forme d'oubli et de réconfort dans le cinéma. D'après les historiens du cinéma, Le Trésor de Haroun, 1965, réalisé par Siamak Rassemi, est considéré comme le prototype de ce genre cinématographique. Toutefois, dès 1969, avec le film Gov, La Vache, réalisé par Dariush Mehrjoui, un courant critique vis-à-vis des systèmes politiques et sociaux contemporains voit le jour. Parmi d'autres films qui suivent cette démarche, on peut citer les noms de Monsieur le Naïf, 1970, réalisé par Dariush Mehrjoui, Reza le Motard, 1970, Reysar, 1969, et Les Reines, 1974, réalisé par Masoud Kimiaï, Le Prince et Hijab, 1974, réalisé par Bahman Farman Ora, etc. D'ailleurs, ce courant critique s'est enrichi grâce à l'apparition d'un certain nombre d'intellectuels et écrivains engagés dont les figures principales sont Jalal Ali Ahmad, Ghulam Hossein Saidi, Mahmoud de la Tabadi et Sader Choubak. En 1973, un groupe d'acteurs et de réalisateurs professionnels et opposants, membres du syndicat des artistes, démissionne pour fonder le Cercle des cinéastes d'avant-garde qui suit une démarche autonome. Parmi ces grandes figures, on peut citer Ezatollah et des amis, Dariush Mehrjoui, Ali Hatami, Bahram Beyzaï, et Masoud Kimiaï. À la veille de la Révolution, la production cinématographique se réduit considérablement et le chômage des métiers du cinéma augmente de plus en plus. Cette situation est issue de l'existence d'une importante censure qui privilégie les films de divertissement parfois osés aux films réalistes montrant le vrai visage de la société. En outre, les films étrangers envahissent à l'époque le marché du cinéma iranien. Avec la victoire de la Révolution en 1979, l'imam Khomeini déclare qu'on n'a rien contre le cinéma, mais on se prononce contre la corruption dans le cinéma. La Révolution légitime et reconnaît ainsi le cinéma en annonçant la mort du cinéma par la vie et la naissance du cinéma islamisé. Ce dernier doit se conformer aux règles islamiques et se mettre au service des valeurs révolutionnaires. Dans le contexte de la Révolution, certains réalisateurs réalisent des films symboliques illustrant la victoire des forces populaires contre le despotisme. Le voyage de Pierre, réalisé en 1978 par Masoud Kimiaï, en constitue un exemple éloquent. Les films de cette période sont divisés en trois groupes. Les films réalisés avant la Révolution et n'ayant pas l'autorisation de tournage à cause de la censure du régime Pahlavi, La Ronde Céleste, 1975, réalisé par Dariush Mehrjoui, Le Rapport, 1977, réalisé par Abbas Kiarostami, et L'Élégie funèbre, réalisé par Amir Naderi. Les films qui continuent à critiquer le système royal, tels que Les Bergers du désert, 1979, et enfin les films qui sont au service des valeurs révolutionnaires comme Rasoul, fils d'Abol Rassem, réalisé en 1981 par Dariush Farhang. La particularité la plus importante du cinéma iranien durant les années 1980 est qu'il est dépourvu d'une structure stable et cohérente. Les questions politiques de ce qui touche à la sexualité sont absentes des films de cette période. Et la guerre pousse les scénaristes à traiter de thèmes guerriers dont le sacrifice, l'idéalisme, la patrie et le patriotisme, le martyr, etc. Le sentiment religieux et l'idéologie révolutionnaire exercent une influence profonde sur les premières productions de cette époque, malgré l'absence de politique étatique incitative. Selon les données disponibles, aucun film concernant les relations hommes-femmes n'est réalisé en 1980, l'année qui suit la Révolution. De plus, les données statistiques montrent que durant les années 80, plus de 50 films sans personnages féminins ont été réalisés. Outre les thèmes traitant de la guerre et de la résistance, d'autres thèmes récurrents apparaissent dans les films de cette période. La critique du régime Pahlavi, le sionisme et les problèmes des communautés villageoises. Durant cette phase, on voit la constitution de la Commission du scénario en 1983, la Fondation cinématographique Farabi en 1982, ainsi que la première édition du Festival du film de Fajr en 1982. Dès la fin de la guerre en 1988, l'Iran entre dans une période de reconstruction. Le cinéma iranien, suivant les tendances de la société, qui cherche à formuler une nouvelle définition de la famille et de l'identité iranienne, est divisé en trois groupes principaux. Le cinéma conservateur, qui cherche l'apaisement et la reconstruction du système social, le cinéma critique d'orientation surtout réaliste, et le cinéma de la nouvelle vague, dans lequel les cinéastes iraniens résidant à l'étranger sont plus actifs. Durant cette période, on voit l'apparition de femmes réalisatrices dans le champ du cinéma iranien. Rakhshan Bani Etemad, Pooran Derakhshande, Tahmineh Milani, Marzieh Boroumand et Ferial Behzad comptent parmi les grandes figures féminines non seulement de cette époque, mais aussi de toute l'histoire du cinéma iranien. Dans leurs films, elles cherchent à réhabiliter le rôle et la place des femmes dans la société et au sein de la famille. Dès 1997, le cinéma devient souvent le reflet de la réalité sociale, et plus particulièrement des problèmes liés aux femmes. Selon les données statistiques, en 1998, il existe près de 30 films dont les personnages principaux sont des femmes. L'exode rural et le développement de l'urbanisation ont un impact direct sur le cinéma de cette période. La plupart des films mettent en scène le milieu et le mode de vie urbain de villes comme Téhéran, qui devient un modèle d'urbanisme. Dans ce genre cinématographique, les hommes et les femmes sont considérés comme des forces sociales qui assument chacun un rôle à part entière dans la société. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine.